In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis aujourd'hui évidemment avec l'inénarrable Martin Mosnier. Martin Mosnier, deux questions.
Oui.
As-tu bien mangé et as-tu bien dormi ?
Dormi moyennement parce que j'ai eu une visite nocturne et bien mangé. Alors, on a mangé au restaurant de l'entreprise qui ne nous était pas arrivé depuis un an et demi.
Voilà.
Et on s'arrêtera là, je pense.
Non, mais c'est équilibré.
C'est équilibré.
Et c'est pas cher.
Et c'est pas cher.
Encore heureux.
Encore heureux.
Et t'as bien dormi, non ? Visite nocturne, qu'est-ce qui s'est arrivé ?
Ouais, il s'est passé un truc. J'ai eu des visiteurs sur mon toit et j'avoue que ça m'a à minuit et demi, tu vois, 1h15, on a entendu des gens sur le toit et ça m'a un peu fait flipper.
T'as bien flippé.
Ouais, et ma femme est allée dormir avec les enfants avec un couteau sous l'oreiller, je peux te dire. Elle était. Ah, et c'était le Walking Dead.
J'ai connu cette expérience au Kenya où j'avais l'impression qu'il y avait des animaux dans ma chambre. Je faisais genre, tout se passe bien, t'inquiète pas, ma femme. Mais je flippais à mort.
Il n'en faut pas beaucoup à Maxime. Une mouche sous la couette.
Ah,
et,
non,
mouche sous la couette et c'est la panique.
Quand t'entends une espèce, t'as l'impression qu'il y a un crocodile qui court autour de toi. Dans le... Non, je te jure. J'ai bien flippé.
Alors, on n'a pas d'animaux dans le studio, mais on a un stagiaire de troisième.
Voilà.
Titouan, qui interviendra à la fin de l'émission.
J'espère, parce qu'il a plein de choses à dire.
Ouais, il nous a déjà dit beaucoup de bêtises. Hein, beaucoup de bêtises, mais on verra à la fin de l'émission ce qui va. En fait, il va noter sur 20 l'émission.
Ouais.
Et il nous notera chacun sur 20.
Okay, j'aimerais qu'il vienne à la fin de chaque sujet, au moins ce qu'il le veut, nous ponctuer.
Non,
un
à
peu
la fin. À
de
la
son
fin.
Analyse, parce que c'est un 2009, il faut le dire.
Là, c'est un 2009.
Et nous, on n'est pas vraiment des 2009.
Ah non.
On travaillait déjà en 2009.
Putain,
donc, 2009. J'ai envie d'avoir son regard sur le football d'aujourd'hui.
Ouais.
Savoir s'il est en phase avec son temps ou si c'est nous qui sommes complètement décalés.
Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas en phase avec le regard que toi tu as sur le football. Ça, c'est une certitude.
Ouais, mais j'espère qu'il viendra. Mais c'est
calme, allez, c'est bon, il est parti.
C'est pas que j'espère qu'il viendra. Il y viendra. Parce que là, je vous écoute, là, tous les mecs qui nous écoutent, qui avaient 20 ans, 25 ans. Ouais, mais non, il dit ça parce qu'il est vieux. Mais vous serez vieux un jour et vous aurez les mêmes trucs.
Et t'imagines quand eux seront vieux ?
Je serai mort.
Voilà, donc l'émission démarre bien. Ça met une bonne pêche. Trois sujets aujourd'hui, Maxime.
Ouais.
Trois
sujets. J'ai l'impression que ça démarre sur des bases assez laborieuses.
Ouais, laborieuses, puis un peu triste. On a quand même parlé de ton décès, donc c'est pas quelque chose de très sympa.
Je l'avais pas prévu.
Trois sujets aujourd'hui. On parlera de Juninho et de Genesio.
Est-ce que Genesio
et de Genesio. Juninho Genesio, le duo de Brésiliens. Est-ce que c'est eux qui vont redresser l'OL ? Est-ce que c'est la bonne solution pour Lyon ? Car vous savez que depuis jeudi, Fabio Grosso n'est plus l'entraîneur de l'OL.
On parlera ensuite de Donnarumma, du gardien du PSG, qui est capable du meilleur, et vraiment du meilleur parfois sur sa ligne, et du pire avec le jeu au pied notamment. On l'a encore vu contre Monaco, on l'a vu aussi en Coupe d'Europe face à Newcastle. La question est suivante, est-ce que Donnarumma est viable pour le jeu souhaité par Luis Enrique ? Est-ce que Luis Enrique a raison de s'entêter avec Donnarumma ?
Et on terminera avec Pierre-Emerick Aubameyang qui a marqué un triplé, c'était jeudi en Ligue Europa face à l'Ajax. Est-ce qu'avec ce triplé, on pardonne tout à Aubame depuis le début de saison ? Voilà.
L'émission est à retrouver sur les bonnes et les mauvaises plateformes de podcast. Titouan, est-ce que tu sais ce qu'est un podcast ?
Quoi ?
Ok, merde, Titouan ne suit pas du tout l'émission.
Il ne suit pas l'émission ?
Ouais, il suit pas... Non.
Tu sais ce qu'est un podcast ?
Oui.
Il a dit oui. T'en écoutes ?
Non.
Voilà, okay. Il a dit
ouais.
Non.
Donc voilà. Donc il sait ce que c'est, mais il n'écoute pas. Bon, c'est pas grave. Alors tu vas découvrir, tu vas sur Acast, sur Google Podcast, tu vas sur
Spotify.
Apple Podcast, Spotify, Deezer, ça tu connais, j'imagine. Et tu tapes FC Stream Team et tu nous écoutes et tu réécouteras ce qu'on vient de dire avant. Et peut-être que tu t'entendras à la fin, avant la fin de la maison. Et la maison. L'émission. Et évidemment, les meilleurs extraits de l'émission sont à voir à la maison sur eurosport.fr.
Exactement. On y va, Maxime ?
On y va.
L'Olympique Lyonnais a donc viré son coach. Il était temps, j'ai envie de dire. Fabio Grosso n'est plus l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. L'équipe nous apprend que Juninho devrait arriver en tant que, enfin, va arriver, hein, en tant que conseiller du président John Textor. Bruno Genesio pourrait être une des options pour remplacer Fabio Grosso. Maxime, qu'est-ce que tout cela t'inspire ?
Bah déjà, ça m'inspire que les hasards de la vie sont toujours un peu étonnants. C'est-à-dire que Genesio quitte son poste à la trêve internationale au moment où à Lyon,
Qu'on lui mette un coup de pied aux fesses.
Sans qu'on lui mette un coup de pied aux fesses. Et là, on se dit, tiens, c'est marrant. Il y a un petit, c'est un peu le De Gaulle lyonnais, c'est un peu c'est le recours. Voilà. Pas de traversée du désert trop longue. Et là, finalement... Si jamais il y a besoin de moi, au début on avait entendu qu'il n'était pas intéressé, mais finalement hier, l'information chez nos confrères de l'équipe qui fait que potentiellement, finalement, il pourrait être intéressé. Donc je ne peux pas m'empêcher d'imaginer qu'il avait une idée derrière la tête, après il fait ce qu'il veut, peu importe. Moi, le retour de Genesio, déjà à la base, les retours, c'est pas bon, voilà. On va pas se mentir. À long terme, il est rare qu'un type qui revient dans un club, que ce soit sur le banc, que ce soit sur le terrain, que ce soit ailleurs, ça fonctionne parce que soit on attend la même chose de la première fois quand ça a été excellent et on se rend compte que 9 fois sur 10, ça ne l'est pas, soit on se rend compte aussi que c'est pas terrible et que ça va être juste une rustine. Là, si Genesio revenait, je vois pas comment ça pourrait être plus qu'une rustine, simplement, pour sauver la patrie, parce qu'il retrouverait Tolisso, il retrouverait Lacazette, c'est aussi, il faut le dire, des joueurs qu'il a eu sous ses ordres et qu'il arrivait, souvenez-vous de ces matchs j'avais contre le PSG où il arrivait à tirer le meilleur de, voilà, ça il sait faire, il saurait les pendre un peu par les sentiments et par la main,
c'est sûr,
mais là on est dans le manque d'idées absolues. C'est-à-dire qu'on parle aussi de Juninho. Juninho qui revient dans un rôle en plus différent de conseiller, qui vient une semaine par mois. Mais à quel moment il y a quelqu'un qui se dit « Ah, ça c'est bien, ça va marcher, c'est la solution ». Non, à un moment, dans un club, notamment comme Lyon, il faut faire les choses à 100% ou pas du tout. Parce que là, en gros, ce qu'il dit, Juninho, c'est que il veut bien aider, mais qu'il a toujours envie de vivre à Rio. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc moi, je pense que sur le court terme, peut-être que Genesio, le retour, pourrait être une idée qui fonctionnerait. De toute façon, ça fonctionnerait pas moins bien sans doute qu'avec Grosso.
C'est ce que j'allais
dire. Même si on en reparlera après sur le cas Grosso, parce que je trouve qu'il en prend beaucoup sur la tronche et au propre comme figuré, sans être complètement responsable. Mais bon, bref. En tout cas, moi, je pense que c'est une idée au mieux moyenne, au pire catastrophique, mais sur le long terme.
Alors, moi, je pense que Genesio, tu l'as dit, ça ne pourra pas être pire que Fabio Grosso. Fabio Grosso qui est arrivé là, parachuté un peu, sans savoir ce qu'il attendait. Il a découvert un environnement et il avait beau jouer avoir joué à l'OL, il n'avait pas l'ADN de l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire, Lyon, c'est un club où les joueurs font la loi. C'est comme ça, depuis la nuit des temps. Ils ont eu la peau de Grosso, ils veulent Bruno Genesio. Et je pense que ça reste pour moi une des solutions viables pour sauver l'Olympique Lyonnais. T'as raison de dire que les retours, ça fonctionne rarement. C'est vrai, ça fonctionne rarement. Ça fonctionne même presque jamais. Je pense en revanche qu'il peut remettre dans le sens de la marche des joueurs qui ont été égratignés, voire bien abîmés par ce qui se passe depuis le début de saison. Je pense que Cherki, je pense que Lacazette ont été franchement abîmés par le passage de Fabio Grosso qui ne leur faisait plus confiance, qui n'en avait plus rien à faire des statuts. En fait, ce qu'il faut à cette équipe, c'est des câlins maintenant. Et Grosso était incapable de donner des câlins. Et dans un premier temps, c'est-à-dire dans un premier temps, il faut remettre les têtes à l'endroit. Je pense que Bruno Genesio peut remettre les têtes à l'endroit. J'ai une grosse limite avec Genesio, c'est lui. C'est-à-dire, il était quand même un peu en bout de route à Rennes. Il était épuisé. Il est parti de lui-même. Il était fatigué. Il n'avait plus de solution. Il tournait en rond. Est-ce qu'il a rechargé les batteries ? Est-ce qu'il est capable aujourd'hui de reprendre un club et de repartir parce que là, faut être chef de meute. Il faut mettre toute son énergie. Voilà, moi, c'est la vraie question que j'ai sur Genesio. Sur le profil, sur la personne, j'ai peu de... Enfin, je me dis pourquoi pas. Sur le moment et le timing, j'ai plus de doutes.
Alors moi, je suis d'accord sur Lacazette. Je pense qu'il peut très bien le remettre à l'endroit. De toute façon, ça ne sera pas difficile parce qu'il n'avance plus et surtout, il était mis de côté. Cherki, le remettre à l'endroit, serait plutôt le mettre à l'endroit parce que personne n'a réussi.
Laurent Blanc, quand même, Maxime, t'es dur avec Cherki.
Arrête avec ça.
Non, mais
Laurent Blanc le faisait jouer. C'est différent.
Non, il a été bon avec Laurent Blanc quand même, Maxime. Alors peut-être pas en ce début de saison, mais l'année dernière, la deuxième partie de saison de Cherki, elle est bonne. Thierry Henry, il a su faire aussi avec Cherki.
Alors, ouais, c'est avec les échecs pour une fois.
Voilà.
Non, mais, ouais, non, mais voilà.
Tu moment. N'aimes pas Cherki, Maxime.
Non, c'est pas ça. Si. C'est que je pense que le problème, il est.
Non, plus... mais moi, alors, moi, je vais te dire un truc, Maxime. Si tu me dis qu'aujourd'hui, avec cet effectif-là.
Tu me l'as déjà dit la semaine dernière.
Lyon,
mais je vais te redire la même chose.
Est meilleur sans Cherki ouais. et sans Lacazette. Ok,
alors,
très
non,
bien.
Non, mais enlève Lacazette.
Alors, je vais te dire. Pour le coup, essayé, il s'est trompé.
Est-ce que tu es persuadé que Lyon est meilleur avec Cherki? Bah non, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, je pense que Cherki.
Donc, ils sont meilleurs avec Gifinho qu'avec Cherki.
Il y a un autre travail à faire pour Cherki. Voilà, mais c'est encore autre chose. Les câlins, je suis d'accord. Genesio est capable, mais souviens-toi, à la fin, on lui reprochait de pas mettre assez de coups de pied au cul.
Oui, mais là, on est dans une autre situation.
Ouais, mais à un moment, il y aura des coups de pied au cul.
Je suis d'accord avec toi, mais on est dans
Après,
une autre situation.
Je pense en effet que, souviens-toi, bah, tu es bien placé pour ça. C'est à toi qui l'avais dit, Jean-Michel Aulas, qui regrettait d'avoir écouté les supporters à l'époque
oui.
Pour débarquer Genesio.
Oui.
Donc je pense que voilà, j'ai envie de dire que ce serait un moindre mal, Genesio, voilà. Mais n'empêche que là, enfin.
Oui, mais ça, je suis d'accord. Sur le manque d'idées, je suis d'accord avec toi.
Ouais. Et c'est pas bon de pas avoir dit. Enfin, et surtout au-delà du manque d'idées, je trouve ce qui est un peu inquiétant, c'est le pouvoir d'attractivité de l'OL.
Ouais.
Parce qu'il y a des clubs quand même.
Ouais, c'est vrai.
Et on parle de l'OM et souvent on va parler de l'OM aussi qui est un peu dans la panade. Quoi qu'on le dise, l'OM reste toujours un club attractif. C'est-à-dire qu'il y a toujours un truc qui fait qu'une lumière, c'est « Allez, je vais y aller, j'ai envie de tenter le défi parce que c'est l'OM ». Alors, ces dernières années, on a vu que les entraîneurs avaient surtout envie de partir très vite, mais ils n'avaient pas peur de venir, il n'y a qu'à voir les entraîneurs qui sont venus. Le problème, là, c'est qu'on est en train de se dire « Mais en fait, s'ils en sont déjà à penser Genesio, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a pas un entraîneur d'un calibre intéressant qui serait disponible pour elle et qui aurait envie. » Et c'est ça qui est plus inquiétant. Et quand on voit, je finis là-dessus sur l'organigramme, là c'est l'armée mexicaine. Alors, j'ai peur qu'on passe du vide au trop-plein. Trop-plein de personnes pour gérer le club, avec Textor qui est en haut et qui essaye d'être omnipotent sans en avoir les qualités finalement.
Après Textor, moi je lui en veux pour une chose, c'est pour Fabio Grosso. On va en parler de Fabio Grosso. Qui pour moi n'est pas loin d'être le pire entraîneur qu'a eu l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire qu'il est arrivé. Alors oui, il y a un contexte, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on lui avait pas tout dit à Fabio Grosso. Je pense qu'il a découvert quelque chose. On lui a donné le paquet cadeau, mais il pensait avoir autre chose dans le carton, quoi. En revanche, l'histoire de la taupe, écarter la Cherki, mettre la casette sur la brèche, changer d'équipe tous les week-ends, changer de système tous les week-ends. Il a ajouté de l'incertitude à une situation qui était déjà complètement à l'envers. Il a ajouté de l'instabilité à l'instabilité. Et je pense que il a pas saisi que Lyon était 18e, qu'il fallait s'en sortir, qu'il fallait mettre en place un cadre peut-être plus simple que ce qu'il imaginait. Se comporter, ce que je disais tout à l'heure, en chef de meute. Il s'est mis tout le monde à dos, il a tout foiré et c'est un fiasco mais monumental. Il est resté combien ? Moins de 70 jours ?
76 jours. Je
76 jours, il est resté. Et on l'avait vu tout de suite, ça puait comme c'est parti l'histoire. C'est quand tu commences à ne pas dégager un 11. Quand il y a l'urgence, t'es pas en préparation d'été, quoi. T'as pas le temps de faire des expériences à tout va. Il a fait n'importe quoi, il s'est planté dans les grandes lignes et c'est une erreur monumentale de Textor.
Ça sentait mauvais avant lui et ça sent toujours mauvais après lui. L'été de l'OL, c'est pas un match gagné, même en amical, je crois, il me semble. Oui, il a fait les choses un peu à l'envers. Mais je sais pas qui aurait fait mieux à ce moment-là.
Non, mais voilà. Se foutre tout son groupe à dos, je pense que là,
non,
quand même,
c'est sûr. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, que ça arrive à ce personnage-là. On n'a pas l'impression que c'est le genre de personnage à qui ça aurait pu et dû arriver de se mettre sous son groupe à dos. Et puis, je reviens très vite, mais c'est vrai que j'ai parlé de Genesio au début du timing. En plus, sa seule victoire, c'est contre Rennes.
Ouais.
Alors bon, ouais, évidemment,
c'est génial.
Voilà, donc ça va. Peut-être que pour Genesio, ce sera un mal pour un bien, mais voilà. Moi, c'est pour ça que j'ai du mal là à tout foutre sur le dos de Fabio Grosso. C'était pas la bonne personne au bon moment. Il s'est sûrement mal pris, ça c'est sûr. Voilà, la seule bonne chose pour lui, c'est qu'il voulait pas retourner à Marseille.
Il n'y retournera pas. Non, c'est sûr qu'il n'y retournera pas. Non, mais pour moi, c'est quand même une monumentale erreur de casting. À quel moment tu penses que tu arrives à Lyon, qui est un club qui joue, allez, on va dire quand même, qui joue l'Europe en début de saison. Ils sont avant-dernier, je crois, quand il arrive. Donc, il y a quand même une urgence qui est prégnante. Et tu vas chercher un mec qui est dont le principal fait d'armes est d'avoir fait monter un club en série B.
Oui, mais ça, c'est pas de sa faute.
Non, c'est pas de sa faute, ouais. À Fabio Grosso. Ça, c'est de la faute de Textor.
C'est ça.
De pas avoir. C'est d'abord, en premier, c'est une faute de casting. C'est le mauvais profil pour moi. Et après, lui, il a tout fait à l'envers. Et il s'est complètement planté, quoi.
Et la faute de Textor, c'est d'avoir fait un peu n'importe quoi au niveau du timing avec Olas, d'avoir fait n'importe quoi au timing avec Blanc, ben d'avoir fait n'importe quoi au niveau du timing avec la DNCG. Souvenez-vous
que la Ponceau DNCG, avec tout son.
La DNCG est quand même passée. Là, Lyon est passé mercredi vers la DNCG. Comme par hasard, la veille, on attend. Ça y est, l'OL Reign va être vendu. C'est-à-dire que là, Textor n'apprend toujours pas de ses erreurs. Première fois qu'il passe devant la DNCG, ils disent ça va rapporter 50 millions d'euros, la vente de l'OL Reign. La DNCG dit mais oui, mais c'est pas vendu, donc on peut pas mettre ça dans les comptes. 4 mois après, il revient devant la DNCG en disant il va être vendu. Mais c'est, je trouve ça dingo. Et je veux vous dire, si la DNCG a peut-être été dure la première fois et qu'on peut penser que Olas avec ses connexions, là, ils n'ont pas été si sévères que ça. Parce que pour le coup, là, ça fait deux fois en gros que ça ne passe pas, qu'il manque des choses.
Mais si t'es en
train... Et ça, c'est pas grosso pour le coup.
Si t'es en train de me dire que le principal responsable du fiasco lyonnais actuel, c'est John Textor, je suis 100% d'accord avec toi. 100% d'accord avec toi. Après, je pense que Grosso n'a rien fait pour améliorer la trajectoire de l'Olympique lyonnais. Voilà.
Ouais.
On est d'accord ?
On est d'accord.
On se rabiboche tout souvent. Est-ce qu'on tente ? On s'engueule
Est-ce
toujours.
Est-ce qu'on tente une première intervention de Titouan s'il a quelque chose à dire ?
Non, il a rien à dire. Non, il a rien à dire. Non, Titouan, il viendra à la fin, il veut parler de Donnarumma.
Non, mais tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, les jeunes, c'est nickel.
Avant l'émission, ça parle fou. Les gars, je vais révolutionner votre émission, les gars.
C'est un peu notre, on l'a pas entendu.
Non, il va venir la dire au micro.
Tu viens la faire. Tu viens la faire. Ouais, alors là, on a notre sniper.
Alors là, c'est Laurent Baffy.
Laurent Baffy ou Paul de Saint-Cernin, il arrive, tac, tac, tac. Allez, vas-y, ton avis sur Fabio Grosso.
Attention, Titouan, tu parles bien dans le micro. Vas-y, Titouan, c'est à toi.
Fabio Grosso, il a eu plus de points de suture que de points en championnat.
Bouh.
Non, mais elle est bonne. Alors, j'ai quand même une question à te poser. Est-ce que tu l'as trouvé toi-même ou est-ce que tu l'avais en tête ou tu viens, c'est une fulgurance de maintenant ?
Non, je l'ai vu sur,
sur les réseaux.
Il est bien, bravo. Très bien. C'est aussi pour ça l'intérêt d'avoir du public.
C'est vrai, tout à fait.
C'est que ça, je l'avais pas, tu vois. Bim, j'étais assez content avec mon histoire de Marseille. Bah lui, bim, il est arrivé avec ses
points. Il t'a ringardisé, Maxime.
Il m'a ringardisé.
Oh, il t'a ringardisé. Donc la semaine prochaine, ce sera Martin Mosnier et Titouan pour la Stream Team. On passe au deuxième sujet, Maxime ?
On passe au deuxième sujet. On va parler de
John Luigi.
Ben oui.
Ouais, Donnarumma.
Donnarumma. On va parler de Donnarumma. Donnarumma qui, alors là, c'est un peu une énigme depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, parce qu'on sait qu'on lui a mis, Navas dans les bottes, ou plutôt Navas, on lui a mis Donnarumma dans les bottes. À un moment, Donnarumma s'est retrouvé seul avec Navas prêté. Il n'était plus là. Après, on lui a remis Navas dans son dos. Et là, qu'est-ce qu'on voit depuis le début de saison ? C'est qu'on voit un Donnarumma, finalement, qui est capable du meilleur, avec vraiment des prestations hyper abouties. Le match de Reims, Monaco sur sa ligne, et puis toujours ce défaut dans la relance au pied ou avec une petite boulette mardi contre Newcastle.
Et surtout contre Monaco, la grosse boulette au pied.
Oui, je l'ai dit ça.
Ah oui, ouais. D'accord, pardon.
Et en fait, c'est de se dire, voilà, mais qu'est-ce qu'on fait ? En fait, est-ce que Luis Enrique peut continuer à espérer quelque chose de décent au niveau du pied avec Donnarumma ? Son jeu est basé là-dessus. Est-ce qu'il a raison de s'entêter avec Donnarumma ? Est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment, penser à autre chose, même si, on le rappelle, actuellement, Navas a un problème de dos.
Je vais te poser une question, Maxime.
Vas-y.
Est-ce que tu connais un joueur de champ qui a la morphologie de Donnarumma ?
Si,
qui est fait comme lui, qui se déplace comme lui, qui...
Ouais, j'en ai un.
Ah, vas-y, dis-moi.
Yann Koller.
Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc avec ses pieds, Yann Koller, c'était pas le meilleur non plus. Hein. T'es très bon de la tête, mais des pieds... Non, mais le problème, c'est qu'en fait, on veut en faire un joueur de champ alors qu'il n'a rien d'un joueur de champ. On veut faire du gardien le 11e joueur, mais... Pourquoi pas ? Après tout, on peut s'adapter au profil. Il y en a, il y a Ederson, il y a Onana, Manchester United, il y a des gardiens qui sont très bons, mais je pense que c'est inné, que c'est naturel chez eux. Chez Donnarumma, ce n'est pas inné. On peut travailler tout ce qu'on veut, il aura toujours cette faiblesse-là. Donc, est-ce qu'il faut s'obstiner, quitte à peut-être tous les 6-7 matchs, se prendre une cacahuète, qu'il nous sorte une merguez, qu'il fasse n'importe quoi avec ses pieds et que le PSG se prenne un but casquette. Alors quand c'est contre Monaco et que derrière la victoire, il n'y a pas de problème. Si ça arrive en 8e, en quart ou en demi-finale de Ligue des Champions, on en reparlera. Donc moi, je ne suis pas sûr qu'il faille s'obstiner avec quelqu'un qui, de facto, il n'est pas fait pour ça, Donnarumma. On voit que c'est compliqué pour Donnarumma. La façon dont il place ses hanches, la façon, son toucher de balle aussi. Et même, on a parlé de sa boulette face à Monaco avec une relance complètement ratée, mais même face à Newcastle, il met Danilo Pereira plusieurs fois dans l'embarras. Il met aussi Hakimi dans l'embarras avec des passes qui ne sont pas sûres, qui sont trop fortes, qui sont mal dosées, qui ne sont pas dans les pieds. Donc, il met sa défense en difficulté. Je ne sais pas pourquoi on Je ne sais pas pourquoi Luis Enrique est sans tête. Parce qu'au-delà de ça, en plus, Donnarumma, moi, j'ai rien à lui reprocher au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il fait un très, très bon début de saison, qu'il est sans doute le joueur le plus important du Paris Saint-Germain derrière Kylian Mbappé, parce qu'il en rattrape des cagades de Skriniar. La défense, moi, je ne la trouve pas souveraine, celle du Paris Saint-Germain. Je trouve que Paris concède beaucoup d'occasions, mais que le PSG a un gardien qui lui sauve les miches. Regardez son match à Reims, notamment. Voilà, c'est un très, très grand gardien. Sur sa ligne, c'est l'un des meilleurs du monde. Simplement, demandons-lui ce qu'il sait faire. Et surtout, en le mettant en danger, tu mets en danger le Paris Saint-Germain. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut juste s'adapter à lui.
En fait, sur la ligne, voilà, c'est peut-être une des meilleures versions de Donnarumma qu'on a sur sa ligne en début de saison. C'est-à-dire qu'il fait le job. Alors, évidemment, il y a la boulette contre Newcastle. Mais c'est vrai que le jeu au pied, c'est une douleur absolue à chaque fois. Et alors, tu as parlé des passes. Moi, il y a une passe qui m'a marqué. C'est pas celle à Hakimi qu'il met sur le côté, le long de la ligne de but. C'est un moment, en première mi-temps, un peu après, il donne le ballon à Danilo Pereira. C'est une passe à 5 mètres. Oui. Mais elle est donnée 5 cm trop en avant. Donc, le joueur doit un peu se reculer, s'adapter. Et derrière, Paris perd le ballon. En fait, je ne sais pas si c'est mental ou s'il a les pieds carrés. Mais en tout cas, il y a sûrement un peu des deux. Mais il n'y arrive pas. Mais après tout... Moi, vous connaissez l'amour que je porte au jeu repartir de l'arrière à chaque fois, du dogme qui est stupide de se dire il faut tout le temps repartir de l'arrière. Moi, je ne comprends pas. Et à un moment, si on veut faire ça, si c'est vraiment la pierre angulaire du jeu, il ne faut pas Donnarumma. C'est stupide de tenter ça avec un gardien comme Prenez l'exemple de l'Olympique de Marseille avec Sampaoli à l'époque. Paul Lopez arrive, Mandanda. Ce qui était remis en cause, c'était pas le talent de Mandanda sur sa ligne, simplement qu'il partait du principe que Mandanda jouait trop dans sa surface, qu'il n'était pas capable d'avancer et que Paul Lopez était, on va dire, un libéro qui servait à relancer le jeu. Et ce qui est marrant, c'est que pendant cette saison-là, Mandanda a fini par retrouver sa place vers la fin de la saison avant de partir, c'est que Mandanda finalement finissait par s'adapter et il l'assurait très bien dans le jeu long. Jeu court, c'était pas génial, mais on voyait qu'il avait du jeu long.
Au moins, t'es pas en danger dans le jeu long.
Voilà. Mais en plus, il s'appliquait. C'était pas des dégagements n'importe comment. Et là, ce qui est embêtant avec Donnarumma, c'est que finalement, on a l'impression que rien ne change. C'est-à-dire que les mêmes problèmes produisent les mêmes effets. Et moi, je ne comprends pas. Tu reviens contre Monaco. Alors, je sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il attend ? C'est un peu comme contre le Real, même si le Real, le coup venait un peu plus de l'arrière par Benzema. Mais balance une ogive, arrête un peu.
Mais il n'a pas le droit, je pense.
Oui, mais il n'a pas le droit, mais qu'est-ce qu'il va lui dire, Luis Enrique? Il va mettre qui dans les buts?
Mais on en est à se dire que Luis Enrique préfère prendre un but casquette plutôt qu'une relance dans les tribunes. Je vais te lire la déclaration de Luis Enrique. Les erreurs font partie du football, j'en commets à tous les matchs. Sa saison est exceptionnelle et je suis ravi de son rendement et de son comportement. Il ne va jamais remettre en cause Donnarumma parce qu'il sait qu'il le fait jouer contre nature. Donc quelque part, il a une dette envers Donnarumma et il va continuer à le défendre. Mais moi, on ne me fera. Enfin, j'ai tendance quand même à penser que sa boulette contre Monaco, forcément. Alors oui, le match est gagné, mais oui, ce sont des monstres de haut niveau, donc ils ont un mental d'acier. Mais quand un gardien fait une boulette comme ça, forcément, la confiance, elle s'effrite un petit peu. Et peut-être que la boulette contre Newcastle, la graine, elle a peut-être été plantée contre Monaco. Donc, de toute façon, c'est important de mettre ton gardien dans les meilleures conditions, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France ou en Ligue des Champions, parce que derrière, il a besoin d'être au top de sa confiance dans les matchs qui comptent. Et je pense que moi, elle s'est un peu effritée le week-end dernier et qu'il l'a un peu payé face à Newcastle. On a l'exemple contraire avec Onana, le gardien de Manchester United, qui alors lui, au pied, c'est exceptionnel. En revanche, sur sa ligne, il fait encore deux boulettes contre Galatasaray. Il fait une campagne en Ligue des Champions très, très compliquée. Mais Ten Hag, il est comme donc son coach à Manchester United. Et comme Luis Enrique avec le PSG, il va constamment défendre Onana parce qu'il sait qu'il a un super jeu au pied, etc. Mais bon sang, un gardien, ça sert à quoi? Son but numéro un, ça sert à quoi? C'est protéger son but. Est-ce que Donnarumma sait protéger le but du Paris Saint-Germain? Oui, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gardiens qui protégeraient mieux le but du Paris Saint-Germain. Mais c'est la philosophie de jeu de Luis Enrique qui aujourd'hui le met en danger et donc met en danger le collectif. Encore une fois, il n'y a pas eu de conséquences dramatiques, même si, Newcastle, quelque part, ça met en danger le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas s'il faut continuer à s'obstiner, très, très honnêtement. Mais bon, Luis Enrique n'arrêtera jamais.
S'il ne s'obstine pas avec Donnarumma, quelle est la solution?
Non, mais il ne peut pas mettre Keylor Navas.
En fait, là, Keylor Navas, dans la cave. Là, il est touché au dos. Oui. Mais en plus, on a l'impression que ce n'est plus un sujet. Il a disparu des radars.
Ce qui est très bien, parce qu'on a suffisamment reproché le fait de mettre les deux sur le même pied, alors, que là, c'est très bien qu'il y ait une vraie hiérarchie.
De toute façon, tout a été mal foutu dès le début avec les gardiens. Alors oui, mais à un moment, quand même, un peu de concurrence, c'est pas mal aussi. Voilà.
Ouais, mais Enfin, honnêtement, Donnarumma, ce serait dur de le foutre sur le banc, sachant qu'il fait, il fait quand même une super saison.
Ça a été injuste de foutre qu'il en avait sur le banc, alors que le mec, t'avais fait une finale de Coupe
d'Europe. Ça, je suis d'accord
avec toi. Et qu'en 2020 ou 2021, on écrivait quand même que le type était sans doute la meilleure recrue du PSG version QSI.
Mais parce
que
ça, je suis d'accord avec toi.
Il avait apporté de la stabilité à un endroit qu'il n'en avait pas. Et là, maintenant, c'est devenu un non-sujet. On sent qu'il est en fin de carrière, il touche son salaire et vogue la galère.
Ouais. Non, mais c'est terrible. En fait, c'est... Voilà, mais moi je trouve que c'est un peu injuste qui arrive à Donnarumma, qui paye un peu l'ère actuelle des gardiens, c'est-à-dire que voilà, il se prend dans la tronche une évolution qu'il a pas demandé et dans laquelle il est un petit peu pâteau. Il faut bien l'avouer.
Et il est pas le seul pour le coup.
Et il est pas le seul. Ça.
Il est pas le seul. Titouan, un avis sur Donnarumma, Donnarumma.
Une punchline.
Navas, une
punchline Donnarumma.
Il a plus de points que de cheveux.
Non,
pas,
je sais pas si
ça
se passe. Quelque chose, Titouan. Non, t'as pas envie. Non, il a
mais
pas envie.
Tu changerais pas de gars. Tiens, si t'avais le choix, t'es le patron du PSG. On te dit, t'as l'argent que tu veux, bah, comme le PSG, de toute façon. Et tu choisis le gardien que tu veux. Tu choisirais qui comme gardien?
À son meilleur niveau ou maintenant?
Maintenant.
Tu vas me faire les deux.
Ouais. Attends, mais viens au micro.
Alors, on va commencer par maintenant et après, on va voir si tu connais le football. La pression.
Tu prendrais qui aujourd'hui maintenant? Là, vas-y, Titouan.
Moi, j'aurais pris Mike Maignan.
Mais vous l'aviez, hein?
Ouais, bah oui, mais ils l'ont vendu.
Ouais, ouais. C'est vrai. Et de tous les temps, enfin, je veux dire, dans l'absolu.
Et à son meilleur niveau.
Neuer.
C'est pas bête. Il est bien, ce petit Titouan.
Hein. Il est bon au pied, Neuer.
Ah ouais, voilà. Et d'ailleurs, vous remarquerez que Neuer, on est. Lui, pour le coup, qui est le gardien qui est exceptionnel au pied, même lui, il a mis un peu, j'allais dire, d'eau dans son vin là-dessus. C'est-à-dire qu'il pourrait jouer, faire le malin. Ça dit aussi quelque chose qu'à un moment, un gardien, ça reste. S'ils sont gardiens de but, c'est qu'il y a une raison aussi. Ils ne sont pas dans le champ.
On est des conservateurs, Maxime. Qu'est-ce que tu veux? Non, toi, on le savait.
Non, Neuer, ça c'est.
Ah bah oui.
Lui, c'est une vraie révolution.
Ah bah bien sûr.
Et pas.
Sûr.
Et d'ailleurs, je trouve que.
Vas-y.
Si je peux rajouter un truc.
Ah, rajoute un petit.
C'est qu'on a fait tout un cinéma avec son match en Coupe du Monde contre l'Algérie où il touche je sais plus combien de ballons. Ok, ça c'est bien. Mais la révolution, c'est pas celle-là. C'est sur sa ligne dans les sorties. C'est le premier à vraiment se mettre en position de handball, à faire opposition avec son corps et puis aller chercher les sorties dans les pieds. Et ça, on a oublié parce que c'était moins spectaculaire.
Calme-toi. Maxime, il va falloir ressortir les cachets. Tu te calmes. Allez, on fait redescendre la tension. Et je ne suis pas sûr que la tension redescende parce qu'on va parler de Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant de l'Olympique de Marseille qui cultive un curieux paradoxe depuis le début de saison. Excellent en Coupe d'Europe. Si je ne me trompe pas, c'est 7 buts en 6 matchs.
Ouais.
Catastrophique en Ligue 1. Un but en 12 matchs. Mais le Gabonais a marqué un triplé face à l'Ajax Amsterdam jeudi en Ligue Europa. Un triplé important puisqu'il a permis à l'OM de remporter cette rencontre, d'être en tête de son groupe. Est-ce que Maxime, avec ce triplé, on pardonne tout à PEA?
Alors déjà, de voir qu'ils doivent pardonner quelque chose, c'est un peu costaud. Voilà, bon, bah, il rate son début de saison, donc voilà. Mais la bonne chose, c'est qu'on sait qu'il n'est pas cramé finalement. Parce qu'il y avait le doute de dire qu'il est complètement cramé et que ça ne fonctionnerait pas.
Permets-moi d'avoir encore un petit
peu. On peut se poser la question du pourquoi, du comment il mène une double vie comme ça. C'est quand même assez improbable. Alors, moi, ce que je vois de ce que j'ai vu, notamment les matchs face à l'Ajax, c'est peut-être qu'aussi qu'il est dans une compète qui est un peu plus ouverte, que l'équipe de l'OM va plus de l'avant et qu'elle se retrouve peut-être parfois face à des équipes qui ferment moins le jeu et que, compte tenu de ses qualités naturelles qui sont celles de vitesse, d'explosivité, même s'il va moins vite qu'avant. C'est peut-être que ça lui va plus que d'être évidemment dans les 18 mètres à devoir faire le forcing et faire l'assaut d'une défense qui est bloquée. Voilà. Il a marqué 3 buts, c'est une bonne chose, c'est la meilleure chose qui peut arriver à l'OM parce que l'OM ne marque pas beaucoup, n'y arrive pas. Maintenant, oui, si je te dis qu'il n'est pas cramé, est-ce que ça me rassure? Oui, ça rassure un peu parce qu'un triplé, on n'en fait pas tous les jours. Maintenant, il n'en est toujours qu'à un but en championnat. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Et l'inquiétude, elle est là pour l'OM en championnat. Parce qu'il faut regarder maintenant le classement. Et l'OM est quand même beaucoup plus proche de la descente que de la Ligue des Champions. Et ça, ce n'est pas normal.
Et s'il n'y avait pas Lyon, je pense qu'on en parlerait un peu plus.
Et exactement. Et s'il n'y avait pas Lyon, on en parlerait un peu plus. Parce que même sans être dernier, on se dirait, ah oui, mais là, il y a une vraie anomalie. Mmh. Là, la chance de l'OM, c'est qu'il y a une plus grosse anomalie
que Marseille.
C'est évidemment l'OL. J'en viens à me poser la question, est-ce que pour autant il est le meilleur choix en pointe?
Non.
Non, je pense qu'il n'est toujours pas le meilleur choix en pointe. Et moi, c'est marrant parce que dès le début, je l'aurais fait jouer sur un côté.
Moi aussi.
Voilà, tout simplement. Pour les raisons que je viens de donner tout à l'heure, c'est-à-dire par sa vitesse. Et parce qu'à un moment, il va bien falloir que Vitinha y arrive.
Mais oui.
On parlait aussi de mettre les gens dans des... On parlait tout à l'heure de l'OL et de mettre les gens dans des positions plutôt confortables. À un moment, c'est aussi de jouer sur la confiance des gens. Et justement, le turnover en pointe, c'est pas toujours évident. Et je pense que quand on voit les deux joueurs, il y en a un qui est beaucoup plus jeune, il y en a un qui a plus besoin d'être en confiance, à mon avis, c'est Vitinha. Et je pense que l'associer à Aubameyang d'une manière ou d'une autre, soit sur un côté ou peut-être un peu en deuxième attaquant, ça pourrait aider.
Je suis d'accord avec toi. Alors quand tu parles de Pierre-Emerick Aubameyang qui a plus de mal face aux défenses regroupées, etc., j'ai le souvenir quand même d'un Aubameyang qui flambait avec l'AS Saint-Etienne face aux mêmes défenses et qui était tout aussi regroupé.
Ouais, je pense que t'es moins regroupé quand tu joues Saint-Etienne, mais c'est... Bon bref.
En tout cas, j'ai le souvenir d'un Aubameyang qui marchait sur la Ligue 1 à l'époque. Je me souviens d'un match au Parc des Princes, notamment, où il avait été.
Ouais, mais je pense pas que le PSG était meilleur derrière.
Qui était monstrueux. Mais toujours est-il que moi, je pense qu'Aubameyang, c'est trop tard, c'est tout. Il a 34 ans. Il l'a signé encore jusqu'en 2026, Longoria. Je pense qu'il y a une petite erreur dans le casting à ce niveau-là. En fait, moi, c'est pas le fait qu'il marque pas de but, Aubameyang. Parce que. Je vais m'expliquer, Maxime. Aubameyang a toujours dans sa carrière raté beaucoup d'occasions. Mmh. Il a toujours fait ça à Saint-Etienne, à Dortmund, à Arsenal. C'est pas un buteur clinique avec un sang-froid absolu. C'est pas Pippo Inzaghi, c'est pas le numéro 9 qui va tout mettre, c'est pas Lewandowski. En revanche, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est qu'il ne se crée plus d'occasions, Aubameyang. Ouais. En Ligue 1, il n'a rien à se foutre sous la dent. Alors, il pâtit en partie de ce qui se passe autour de lui, et je pense qu'à l'OM, il y a un effectif qui s'est tout reconstruit cet été, qui se cherche. Et effectivement, je pense que lui, il a la conclusion d'une chaîne dont les maillons sont plutôt faibles. Mais je pense qu'aussi, il a sa part de responsabilité. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est qu'il ne se crée pas des masses d'occasions comme il pourrait en avoir des tonnes à Dortmund, Saint-Etienne, Barcelone, Arsenal, où vous voulez. Moi, il est là l'inquiétude du côté d'Aubameyang. L'autre problème avec Aubameyang, c'est qu'il arrive après Alexis Sanchez, qui incarnait cette équipe, qui, au-delà des buts qu'il marquait, alors oui, il marquait des buts importants, il en marquait plus, surtout, en Ligue 1.
Mais ce n'était pas une machine,
mais il incarnait quelque chose, Alexis Sanchez. Mmh. Qu'est-ce qu'il incarne, Pierre-Emerick Aubameyang? Il incarne, pour l'instant, le fiasco de l'OM en Ligue 1. Alexis Sanchez, il solidifiait l'effectif, il menait tout le monde autour de lui, et finalement c'est un peu le même profil, c'est-à-dire c'était des grands joueurs, des stars internationales on va dire, un peu en fin de carrière pour qu'elles arrivent à l'OM, de toute façon elles ne peuvent pas arriver ces stars-là à 27-28 ans, donc un peu en fin de carrière, mais qui doivent porter le projet, être la vitrine, incarner les ambitions, etc. Alexis Sanchez l'a très bien fait, et donc quelque part les supporters de l'OM et le Vélodrome s'étaient habitués à ça. Derrière, on se dit, Aubameyang, il le remplace, c'est ce qui va se passer. Voilà, un but en 12 matchs. Et je pense qu'effectivement, non, aujourd'hui, il n'est pas l'heure de lui pardonner son début.
Non, et puis on va pas. On va parler de Longoria qui s'est dit, on va faire la même chose, on va trouver un attaquant de 34 ans qui va pouvoir porter, sauf que ce n'est pas du tout les mêmes joueurs.
Pas du tout.
Et puis que le reste autour n'est pas pareil et qu'on ne va pas revenir sur le début de saison de l'OM, les erreurs de casting, le recrutement, les entraîneurs, etc. Mais voilà, c'est ça. Et de toute façon, le problème, c'est qu'Aubameyang. Il est condamné à marquer beaucoup déjà de par son salaire.
Oui.
Enfin, à un moment, il arrive. Évidemment, c'est comme quand on dit le prix du transfert. C'est pas. Bah oui, mais si, mais ça compte quand même aux yeux, ne serait-ce qu'aux yeux des supporters. Après, là où je l'ai trouvé un peu, il a abusé un peu hier soir, c'est qu'il célèbre pas.
Ouais.
Il fait un peu la tête. Il a expliqué après sur RMC, je suis quelqu'un d'humain, il faut rester humble dans ces moments-là. Il a remercié ses coéquipiers. Juste ce que ses coéquipiers. Sous-entendu, le public. Franchement, je ne peux pas lui en vouloir.
À un moment, tu as ta star qui ne marque pas.
Voilà. Et au-delà de ça, il est pas, évidemment qu'il n'est pas le seul responsable, pas plus que les autres. Mais c'est une tête qui dépasse.
Voilà.
Et c'est pareil, c'est plus de salaire, plus de responsabilité, plus d'expérience. C'est aussi à lui de tirer l'équipe vers le haut. Et c'est terrible, Aubameyang, parce que contre le Pana. Il met les deux buts, il fait le job, il va les envoyer en Ligue des Champions, du moins en barrage. Non, malheureusement. Donc c'est vrai que des fois, ça bascule à pas grand-chose. Mais cette double vie, en plus, il s'est peut-être un peu rendu la tâche plus compliquée hier en marquant 3 buts, parce que là, les gens vont dire, pourquoi il marque en Coupe d'Europe? Si Marseille perd contre Rennes dimanche, je peux vous dire que les 3 buts, là, ils seront vite oubliés.
Oui,
parce qu'ils verront le fond qui se rapproche, la Coupe d'Europe qui s'éloigne et le fait que ça ne fonctionne pas.
Donc, voilà. Mais je suis d'accord avec toi sur Vitinha, par contre. Oui. Je pense que, et puis en termes d'investissement,
faut s'entêter un moment.
Ouais, et puis même en termes financiers, je veux dire, la valeur marchande, c'est pas Aubameyang, c'est Vitinha. Et si Marseille a intérêt à ce qu'un attaquant marque 25 buts dans une saison, eh ben c'est plus Vitinha qu'Aubameyang. Je parle d'un point de vue là économique. Et puis Vitinha, c'est ton plus gros investissement de ton histoire. Il arrive au mois de janvier, il a eu 6 mois pour se mettre en route. Il fait une très bonne préparation. Et derrière, les statuts sont fluctuants et sont flous. Moi, je suis pas non plus aux entraînements, etc. Mais je pense que dans l'idéal, ce serait d'installer vraiment Vitinha dans cette position de pointe en numéro 9, parce que je pense qu'il a vraiment des qualités, même si lui aussi rate beaucoup. Mais c'est une question de confiance, Vitinha. Ouais. Je pense vraiment que c'est une question de confiance. Et effectivement, lui adjoindre Aubameyang à ses côtés, en deuxième attaquant, comme tu disais, ou sur un côté, je pense que aussi ce serait la bonne solution.
Ouais, une remarque là-dessus, je ne sais pas si elle est bonne, mais non. Moi, Vitinha, je le dis à chaque fois, il me fait penser un peu à Papin avant Papin. C'est-à-dire que c'est le type qui est, on dit, mais il va rater 800 occasions, pied carré, etc. Mais c'est pas possible, c'est comment il va y arriver.
Et finalement, c'est une question de confiance.
Ouais, et Papin, qu'est-ce qu'il a fait? D'ailleurs, je fais le rapprochement avec ce qu'il a dit. Les attaquants de L1 ne travaillent pas assez. Et Jean-Pierre,
fais-le travailler.
T'en as un sous la main.
Fais-le bosser.
Tu lui montres ce que tu faisais avec Alain Casanova. Tu le fais bosser 2 heures de plus derrière et il progressera. Papin, c'est juste. C'est du talent, mais c'est avant tout un énorme travailleur. Donc voilà, je pense qu'il faut l'installer. J'aimerais bien savoir s'il y a on n'entend jamais ça, ce qu'il y a une relation entre Papin et Vitinha. Pourtant, c'est ça, la clé, elle est peut-être là. Et justement, et ça n'empêche pas d'imaginer Aubameyang à côté de lui. Ouais.
Et est-ce que c'est du talent ou est-ce que c'est un énorme travailleur, Titouan, à ton avis?
Je sais pas.
Je pense qu'il y a du talent.
Tu bosses à l'école, Titouan?
Bon, oui. Titouan, tu vas bien nous dire ce que tu as pensé de l'émission. Tu vas la noter sur 20.
Là, le oui, c'était.
Ouais, c'était moyen. T'as combien de moyenne?
Ah ouais,
ah il ouais, n'y a pas de moyen d'être compétent. C'est des compétences. Non, mais viens au micro. Faut qu'il y ait le micro parce que sinon on ne t'entend pas. Les gens sont frustrés. Ah ouais, Titouan, il fait du chinois. Ah bah viens nous parler chinois. Allez, Titouan, tu viens nous parler chinois s'il te plaît.
Et attends. T'as pris quoi comme langue anglais chinois?
Bah, du coup, j'ai chinois LV1 et anglais LV2.
Ah ouais.
Donc tu vas nous dire, regardez la stream team tous les vendredis en chinois.
Je sais pas comment on dit.
Alors,
non, mais attends, t'as chinois LV1, tu sais pas dire, venez regarder la stream team.
Alors, t'es en 3ème, ça fait 4 ans de chinois donc.
J'ai commencé de zéro.
Bah ouais, mais bon, au bout de 4
et Maxime
ans,
aussi il a commencé de zéro, mais ça s'est vu d'ailleurs cette semaine. Mais voilà.
Mais alors attends, est-ce que tu le lis le chinois aussi?
Ouais.
Ah mais ça me fascine avec les pictogrammes.
Qu'est-ce que tu sais dire en
caractère.
Chinois?
On peut pas dire pictogramme.
Ah, non, c'est des caractères.
Ah bah très bien. Non mais,
il t'a flingué, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu te fais flinguer par un gamin de 14 ans, il y a pas de problème, Maxime devant la France entière, il y a pas de problème.
J'ai appris des trucs pendant 30 minutes, ça m'apprend un truc, c'est donnant. Ah mais je sais pas, tu vois.
Caractère.
Et tu veux que je te dise, je ne redirai plus jamais pictogramme, parce que maintenant je le sais.
Et dis-nous quelque chose en chinois.
Ni hao. Ni hao, ça veut dire bonjour.
Ah bah oui.
Par contre, il te prend vraiment pour un.
Non mais.
Comment dire au revoir en chinois?
Taïtien.
Taïtien. Je sais pas.
D'accord.
Ah ouais,
chinois. Qu'est-ce que t'as pensé de l'émission globalement? Fais-nous un petit feedback, un petit retour.
En chinois?
Non, pas en chinois, en français.
Mais incroyable ça.
Enfin, vous avez dit les termes.
On a dit les termes, exactement.
Voilà, c'est ça.
On a dit les termes.
Le Vlad, le slogan de l'émission. Ouais, ils disent les termes.
Stream Team, ils disent les termes. Très bien. Mets-nous une petite note sur 20. Mets-nous une petite note sur 20.
Sur 20, vous deux réunis?
Ouais.
Non, l'émission.
L'émission.
20.
Ok. Maxime, vas-y. Combien?
Maxime. Sur 20?
Ouais.
19.
Boum.
Et moi?
19.
Non. Et lui, il ira loin. Il a dit, toi, c'est un politique.
Non, mais ce qui est beau, c'est le renversement de situation qu'il y a eu.
Je suis désolé, mais Aubameyang, il a bien joué, mais il a mis un triplé avec 2 pénaltys.
Oui, mais alors ouais.
C'est un peu quand même Mbappé en finale, mais...
Ouais, enfin, va les tirer les 2 pénaltys en finale de la Coupe du Monde.
Non, en finale, oui, mais... Oui.
Non, mais c'est un argument qui tient. Je pense qu'il est plus vieux dans sa tête.
Mais je pense qu'il t'aime pas. Qu'il t'aime pas. Il te mouche depuis le début.
Parce que Martin, il se dit, il va lui mettre 12, et moi, il va le mettre au-dessus. Et quand il a dit 19, il s'est dit, oh là là,
depuis le début de l'émission, tu te fais moucher par un gars de 14 ans, et en plus, qui t'apprend un petit peu la vie. Mais t'as raison,
mais c'est vrai, par rapport au but d'Aubameyang.
Mais il a raison. Qu'est-ce que j'ai dit ce matin?
Il y a plus de chances que tu marques un pénalty que tu te...
Tout à fait. Et il faut jamais dire du mal des tireurs à pénalty, c'est très dur de tirer.
Mais c'est vrai que son deuxième but était beau.
Ah oui, quand même, oui, une bicyclette.
Là, j'avoue qu'il était beau.
Bon, est-ce que ça t'a plu? T'as pas perdu ton temps? C'était bien?
Non.
Est-ce que tu as vu regarder ton téléphone quand même, Titouan?
Ouais, mais tous les jours.
Non, non.
Des informations.
Mercato.
Alors, qu'est-ce que ça dit?
Mais rien, je regardais.
Ah oui, d'accord.
Bon, Titouan exceptionnel. Voilà. Je pense que c'est le meilleur stagiaire de 3ème qu'on ait eu.
Ah ouais, non, il y a eu ma fille.
Ah, il y a ta fille, excuse-moi. Ah oui, pardon. Ah, il y a eu la fille.
Du coup, je suis le meilleur.
Oui, bien vu. Voilà.
Ah,
il t'a mouché aussi.
Ouais. Mais il en fait un peu trop. Sauf que Titouan, il va falloir que ça s'arrête là.
Non, mais c'est celui qui connaît en revanche le mieux Le ballon.
Oui, c'est vrai.
Ça, très bien.
Et tu veux être journaliste sportif en plus.
Peut-être, oui.
Peut-être. Ou pompier, c'est ça.
Oui, mais je pense plus journaliste.
Voilà, là, ouais. Ça y est. Bah, t'imagines que dans 20 ans, il dira un jour, je suis allé.
J'ai eu la révélation. FC Stream Team, et là, on a peut-être la nouvelle plume, la plume du 21e siècle.
C'est ça, exactement.
Et c'est un peu nous qui l'avons lancé dans le grand bain.
Voilà.
C'est un peu comme Guy Lacombe avec Zinedine Zidane. Voilà, on a notre Zidane et on est Guy Lacombe. Voilà. Sauf qu'on n'a pas les moustaches. Merci, Titouan.
Merci beaucoup.
Merci, Maxime.
Et tu reviens quand tu veux.
Ouais.
Ouais.
Et... Enfin, je vais travailler un peu le chinois parce que c'était un peu léger.
Ouais, bonjour, c'était un peu léger. Ouais, c'était un peu léger. Bonjour, au revoir. 4 ans pour dire bonjour et pour dire au revoir. Non. 4 ans pour dire bonjour, au revoir. Je vais avoir une, petite discussion avec tes parents, c'est tout.
Ah, si, en fait, je sais comment on dit.
Ah, bah vas-y, dis-nous, dis-nous, regardez le FC Stream Team
tous les jours.
Enfin, tous les vendredis, mais bon.
Si de toute façon, s'il dit autre chose, on saura pas.
Ouais, vas-y.
Newman Can Tao Tien FC Stream Team.
Bravo.
Et ben, on se quitte là-dessus. Ciao.
Salut.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.